Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enfant bilingue? Comment apprend-il deux langues en même temps? Est-ce vraiment un atout? Autant de questions que se posent les parents qui élèvent leurs enfants dans plusieurs langues. Souvent une langue parlée à la maison, une autre enseignée à l'école. Parfois aussi deux langues parlées à la maison. Avec parfois aussi un peu de confusion pour l'enfant lors des premières années d'acquisition du langage. Nous allons en discuter avec nos invités spécialistes du bilinguisme. Ils nous diront aussi comment certains pays misent sur l'enseignement bilingue à l'école. Ranka Bijeljak Babic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psycholinguistique, Ranka. Vous publiez L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école. Vous êtes aussi maître de conférences à l'université de Poitiers, responsable d'un diplôme universitaire à l'université Paris-Descartes sur justement le bilinguisme chez l'enfant. C'est la seule formation diplômante en France sur ce sujet-là. Preuve que finalement, c'est un sujet qui n'a pas été si exploré que cela les années passées. Vous êtes aussi présidente de l'association Bilingue et Plus, qui défend la diversité des langues dans les familles, à l'école et puis aussi dans la sphère publique. Et c'est vrai qu'on est dans un pays, bien sûr, qui se métisse, qui est de plus en plus international. Avec nous également, Jackie Pialou, psychologue scolaire à l'Éducation nationale. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez donc dans un établissement dans le Val d'Oise qui est en réseau d'éducation prioritaire avec donc une population d'élèves souvent issus de l'immigration. On parle d'autres langues à la maison, c'est bien cela?
Tout à fait, pratiquement.
Pas toujours vécu comme une richesse par l'Éducation nationale,
non,
d'ailleurs.
Pendant longtemps. Aujourd'hui, voilà, on va voir que les choses bougent.
Parce que les notes du côté des bulletins scolaires ne sont pas toujours formidables et on va voir aussi comment on peut mieux valoriser les langues qui sont parlées à la maison, à améliorer aussi le niveau scolaire. Vous avez mis en place la semaine des langues depuis 2 ans pour faire rentrer à l'école maternelle et primaire les langues des enfants des écoles qui sont parlées à la maison. Voilà. Elena Gabrielian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une collègue journaliste arménienne à RFI, à la rédaction russophone de RFI. Vous avez grandi en Ukraine. Dans quelle langue, donc?
Difficile de dire, russe, ukrainien, arménien.
Arménien à la maison, c'est ça, avec maman,
ukrainien,
papa.
Ukrainien, absolument, et je parlais ukrainien et russe à l'université, à l'école, dans le sphère public. C'est deux langues, c'est un pays parfaitement bilingue, comme beaucoup de pays post-soviétiques. Et puis le français, j'ai commencé à apprendre à l'âge de 21 ans. J'apprends une autre langue, le turc, voilà, donc je pense que je m'arrêterai pas
le
là.
D'accord, le français à l'âge de 21 ans, vous avez quel âge?
J'ai 29 ans.
C'est ça, donc vous parlez français sans accent, comme à peu près comme moi exactement même, sauf que vous l'avez appris il y a seulement quelques années.
Oui, tout à fait.
Vous allez nous expliquer tout de même, hein, est-ce qu'il y a un secret des pays de l'Est pour apprendre les langues? C'est une question qu'on se pose souvent et vous pourrez aussi y répondre, Ranka Bijeljak Babic, puisque votre langue maternelle, c'est le
serbo-croate, qui est aussi une langue slave de la famille.
Et quant à vous, les voisins, comment aider votre enfant à devenir bilingue, trilingue? Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71 avec Mathieu Salabert, mon compère à la technique. En face, on se sent très seul et très monolingue aujourd'hui. En fin d'émission, on parlera du bac au Sénégal ou comment des jeunes engagés aident les candidats à réviser, une initiative citoyenne de Social Change Factory. Sobel Ngom sera en direct avec nous. Je vous lis quelques messages sur le bilinguisme. Adilou, qui est à Yagoua, dans l'extrême nord du Cameroun, pays bilingue, trilingue. Il nous dit qu'il est instituteur au Cameroun et il nous dit qu'il voit les enfants apprendre à parler plusieurs langues locales en même temps à travers des activités ludiques, c'est-à-dire quand ils jouent tout simplement à la récréation. Le fait d'être entouré de leurs camarades de diverses appartenances linguistiques, c'est bien sûr pour moi un avantage, nous dit Adilou. D'accord, pas d'accord, Ranka?
Tout à fait d'accord, et puis en plus ça montre bien que les enfants acquièrent les langues spontanément, donc on fait aussi la différence entre acquisition des langues et l'apprentissage d'une seconde langue, et donc ça, c'est aussi leur avantage, non seulement parce qu'ils sont plus jeunes, parce que leur cerveau est plus plastique et qu'ils ont des capacités d'apprentissage énormes, mais aussi que c'est un aspect ludique d'acquérir et d'apprendre les langues dans ces conditions. Donc c'est vraiment...
Donc les langues de la maison qui se mélangent pendant la récréation avec les langues de l'école.
Tout à fait, et puis en plus on voit aussi ce que peut-être Jackie va sûrement en parler, que les enfants ensuite ils sont ouverts à les autres langues, ils sont ouverts aussi, ils sont plus tolérants et plus...
Oui. Les deux termes importants, c'était comme tu l'as dit, le ludique et la communication. Ah, puisque apprendre en situation de communication, c'est pas apprendre avec un petit livre, etc.
C'est sûr.
Ça, c'est beaucoup plus difficile. On l'a tous connu. Donc là, quand l'enfant il a besoin de communiquer... Eh ben, il y va, il faut parler avec les copains, etc. Et ça, c'est très important, oui.
Djibril est à Kaï, au Mali. Le premier obstacle des enfants ici, nous dit Djibril, c'est que la langue à la maison, c'est le bambara, et à l'école, c'est le français. La langue de Molière, bien décortiquée. J'aime bien le mot qu'il emploie. L'Afrique est bien riche en dialectes, alors nous avons tous un choix à faire, qui mêle la nostalgie de notre enfance à l'utilité du français. Et d'ailleurs, le français s'impose. Beaucoup d'émotions aussi, hein, dans ce message, et dans la langue, dans l'apprentissage d'une langue aussi, beaucoup d'émotions. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. L'émission est dédiée aujourd'hui à tous nos auditeurs qui ne sont pas de langue maternelle française et qui pourtant le parlent si bien, qui nous appellent chaque jour en direct. Les voisins, les voisines, vous êtes tous formidables et vous méritez bien cela.22 71 71. On accueille un premier auditeur, Olivier, qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Olivier.
Alors bonjour Emmanuel et bonjour tous les voisins.
Vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons.
Alors je suis étudiant en interprétation de conférences, qui est une discipline sœur à la tradition. Et par ailleurs, je suis alors, je m'exprime couramment en français, en anglais et en yemba. C'est une langue maternelle parlée dans l'ouest du Cameroun.
Oui, le yemba, c'est une langue bamileke. Mais vous avez exact. Le rêve, vous avez, c'est intéressant parce que quand vous avez appelé notre standard, vous avez dit, ben, vous n'avez pas eu le réflexe d'emblée de dire vraiment vous étiez trilingue. Vous avez tout de suite mentionné le français et l'anglais. Mais vous êtes bien au moins trilingue, si j'ai bien compris.
Oui. À la seule différence, c'est en Afrique, c'est pas vraiment au Cameroun. La langue maternelle, c'est très souvent comme un acquis.
Ah bah elle compte. Ah bah si, elle compte, hein.
Un apprentissage, c'est ce qu'il veut dire.
Oui.
Alors, pour ma part, je trouve assez simpliste, je dis même, c'est de dire que le bilinguisme est un simple acquis. Car en réalité, c'est une aptitude et une capacité qui est cruciale, et mon envie de vivre fondamentale dans la vie, compte tenu de la globalisation.
Donc, la ligne téléphonique est très mauvaise, Olivier. C'est pas votre français qui est pas absolument parfait, mais on n'a pas de chance avec la ligne téléphonique. Mais en tout cas, ce que vous nous dites, hein, c'est que pour vous, c'est un atout, c'est une évidence finalement. C'est pas une prouesse, hein, c'est une évidence pour se débrouiller dans la vie moderne aujourd'hui d'avoir au moins deux ou trois langues. Hein. C'est bien ça, Olivier.
Exactement, c'est un minimum de dire que c'est un atout. C'est un minimum qui devrait être, pour mon sens, être imposé même tous les systèmes.
Ouais, être imposé, on est bien d'accord hein, là-dessus, mais encore faut-il savoir comment. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Olivier. Aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs chanceux qui nous racontent comment les langues sont venues à eux. Jérôme nous appelle de Prague, en République tchèque. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour à tous, bonjour aux voisins, aux voisines.
Nous vous écoutons.
Alors, je suis français, j'habite à Prague, effectivement, et on a une situation familiale qui n'est pas très très classique, mais finalement, je suis sûr, beaucoup d'auditeurs ont la même chose chez eux. On parle quatre langues à la maison. Je suis français, je parle français avec mes enfants. Mon épouse russe, elle parle russe avec les enfants. Entre nous, on se parle en anglais. Et puis évidemment, dès qu'on sort de la maison, tout le monde parle tchèque.
D'accord. Donc, on résume effectivement français, russe, anglais, parce que c'est la langue commune entre la langue du couple, hein, entre vous et votre épouse. Et puis le tchèque, la langue du milieu. Les enfants sont scolarisés dans une école française ou...
Non, dans une école tchèque.
D'accord. Et à table, ça donne quoi avec les enfants, Jérôme? Trois enfants,
très,
hein. 10
très
ans.
C'est bizarre pour les visiteurs.
C'est ça, ce sont des filles. 10 ans, 6 ans, 2 ans, hein.
Juste deux filles, 10 et 6.
Oui. Ah d'accord, ok.
Alors, on suit une règle qui est assez simple. Papa parle la langue française, maman parle le russe. Nous, on continue de parler anglais entre nous et bien, les enfants s'adaptent. Et
oui.
Ça passe très bien parce que tout le monde parle toutes les langues.
Oui, mais à table, concrètement, ça donne quoi sur le niveau sonore?
C'est très particulier.
Tout est mélangé. C'est une nouvelle langue que vous avez créée ou...
Alors, on ne mélange pas. On fait des phrases dans une seule langue, mais chaque personne peut intervenir dans une langue différente.
C'est ça. Vous parlez tous la langue de l'autre. Mais il n'y a pas une règle imposée lorsque vous êtes tous ensemble.
Non. Le but, c'est quand même qu'on puisse communiquer, c'est ça le plus important.
Est-ce que vos enfants ont des difficultés à l'école? Est-ce que le fait d'évoluer dans plusieurs langues, ont-ils par exemple connu un petit retard d'acquisition du langage? Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui nous écoutent là-dessus?
Alors, en fait, souvent, on a une image très très positive des enfants qui parlent plusieurs langues. C'est fantastique, ils peuvent voyager, parler avec tout le monde, c'est vrai. L'avantage principal, je trouve, c'est une plus grande créativité, parce qu'il faut toujours s'en sortir, dire des mots qui sont parfois simples dans une langue mais qu'on ne connaît pas dans l'autre, donc on est obligé de le décrire.
Ah oui.
Cette chose carrée en bois, la table? Oui, la table. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on apprend finalement. Donc ça, c'est le côté très positif, mais effectivement, il y a un revers de la médaille. Comme vous avez dit, il y a un retard d'acquisition, c'est normal.
Vous l'avez observé pour vos deux filles,
hein? Ah oui, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans, ils n'ont pas parlé quasiment. Ben, on s'est habitué, on savait, on s'était préparé, ça fait partie des domaines dans lesquels on travaille nous-mêmes. Donc, on a appris, on raconte des histoires, on regarde des films, on écoute des chansons. Et puis un jour, ça sort. Et puis ça continue à fonctionner par paliers. C'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes de stagnation où les langues ne changent pas. Et puis un beau jour, hop, il y a des mots très compliqués qui sortent dans une langue. C'est un des inconvénients.
Et est-ce que vos filles vont réellement être quadrilingues?
Alors ça, c'est une question difficile à répondre parce que c'est aussi une des difficultés, c'est qu'on parle des langues couramment, mais pas toujours avec l'accent maternel. Qui peut être très embarrassant parce que du coup, des personnes extérieures vont vouloir être sympathiques et puis flatter en disant « mais c'est fantastique, tu parles très bien le français », alors qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient très frustrant puisqu'on parle d'une langue maternelle. Mais être congratulé parce qu'on parle bien sa langue maternelle... Ça fait pas l'effet désiré.
Oui, effectivement. Vous décrivez bien les situations de ces enfants multilingues. Ranka Bijel-Jacques-Babich, comment vous réagissez à cette famille quadrilingue?
Je trouve que c'est formidable et que les parents, ils ont tout compris et spontanément, mais je pense que c'est aussi un peu les spécialistes.
Mais au quotidien, c'est pas si simple en réalité.
Bah, je, Apparemment, dans cette famille, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai aussi, ce qu'il dit monsieur, c'est que, est-ce que ses enfants vont rester quadrilingues? Parce que aussi, il n'y a pas seulement la question de l'accent. On sait aussi que très bien que les enfants, ils peuvent avoir plusieurs locuteurs avec différents accents et bénéficier aussi de cette variété, diversité des prononciations et des façons de parler qui est bénéfique parce qu'eux, ils arrivent ensuite à normaliser et trouver la bonne standard bonne. Il n'y a pas de bon accent.
Mais justement, que signifie exactement être bilingue? Et est-ce que être bilingue ou trilingue, et est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'accent ou pas? Que faut-il entendre par ce mot?
Oui, la question d'accent, c'est vraiment la question qui est toujours posée en premier, comme si c'était le seul facteur d'une bonne maîtrise d'une langue. Vous pouvez entendre comme j'ai un accent et pourtant j'enseigne et je suis là depuis plus de 45 ans, donc j'ai plus de mérite de bien parler le français, je devrais le parler parfaitement,
mais vous le parlez parfaitement.
Mais j'ai un accent que je ne peux plus corriger, sauf si vraiment je prenais des cours exprès, ce qui n'est pas du tout...
Mais un accent qui pourrait être comparable à un accent régional, par exemple.
Absolument. Hein. Donc l'accent, ce n'est pas le signe d'une bonne maîtrise de la langue. Mais c'est quand même...
Alors, bilingue, ça veut dire quoi?
Ça veut dire aussi...
Qu'on maîtrise également de la même façon deux langues?
Non, jamais. Parce qu'il y a toujours une langue qui domine, que ce soit par rapport à un moment donné, que ce soit par rapport à une époque de la vie, que ce soit par rapport à un domaine de connaissance. On peut être bilingue pour la vie courante et pas du tout être bilingue pour tout ce qui est domaine professionnel. Donc c'est vraiment une définition très relative et qu'il faut... Et aussi l'idée qu'il existe des bilingues parfaits. Ça, c'est une idée aussi, ou des bons bilingues.
Parce que les interprètes, par exemple, on donne souvent l'idée de l'interprète, c'est-à-dire quelqu'un qui passe d'une langue à l'autre, vraiment sans réfléchir, à part les interprètes ou des gens qui pratiquent.
Et quotidiennement, alors qu'il y a toujours dans la vie courante et professionnelle, à un moment donné, on parle plus une langue que l'autre.
Que disent les recherches ces dernières années? Quelles idées reçues balayent-elles?
Alors, les idées reçues, donc aussi dans l'éducation nationale, on peut aussi en relever plein. L'idée que c'est compliqué pour les enfants, qu'il faut que surtout qu'ils utilisent seulement une, apprennent seulement, acquièrent une seule langue et pas deux. Alors qu'on sait que le système cognitif et linguistique est tellement puissant que acquérir, comme vos témoins de l'Afrique le disent, en Asie, en Inde, c'est pour eux, c'est tout à fait normal d'acquérir plusieurs langues à la fois. Et ils ne se posent même pas la question. Et quand votre...
Et surtout qu'ils n'ont pas le choix, surtout parmi les auditeurs.
Exactement, ils n'ont pas le choix. Et quand il dit, moi j'apprends, je suis bilingue parce que je prends le français et l'anglais, il fait abstraction de sa langue maternelle pour différentes raisons. Aussi parce que c'est complètement naturel, mais aussi qu'on a aussi dévalorisé un peu ces langues en disant que ce n'est pas des langues, mais des dialectes. Alors qu'il y en a des dizaines de langues et des centaines de langues dans certains pays où les différents locuteurs le parlent.
Est-ce qu'il y a des langues, des cultures, des pays qui favorisent l'acquisition du bilinguisme?
Alors, ma voisine pourrait aussi dire ce qu'on véhicule comme idée et qui est peut-être aussi près de la réalité pour différentes raisons que les Slaves ont un certain don pour les langues.
Alors ça, je vous pose la question sur le plan scientifique.
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études qui disent, voilà, on va étudier les Slaves par rapport aux autres pour savoir comment ils apprennent les langues. Le fait est que ce n'est pas des langues internationales, les habitants de ces langues, ils étaient toujours en situation d'apprendre d'abord les langues des voisins ou des langues des mêmes citoyens, des concitoyens. Et de l'autre côté, ils étaient obligés d'apprendre des langues internationales pour être aussi ouverts au monde.
Et Elena, alors dites-nous, vous, comment les langues sont venues à vous au cours de votre vie, depuis votre naissance? Vous avez 29 ans.
Je suis née en Arménie soviétique, un pays qui était déjà, je peux dire, bilingue, pas parfaitement bilingue, mais en tout cas, il y avait la langue locale, l'arménien, et puis il y avait le russe, qui était la langue officielle de l'URSS. Donc mes parents déjà parlaient le russe et l'arménien, et quand j'avais 6 ans, ma famille a quitté l'Arménie, et on s'est installé en Ukraine. Alors le pays, pour le coup, parfaitement bilingue, où on parle l'ukrainien et le russe. Et à l'école primaire, j'apprenais les deux langues en même temps, sans me rendre compte. Déjà, c'était assez spontané. Mais surtout, je ne faisais pas de distinction entre le russe et l'ukrainien, alors que ces deux langues se ressemblent, mais en même temps sont assez différentes.
Donc ça, au cours d'une même journée à l'école. Et puis le soir à la maison,
on parlait arménien. Alors que mes parents ne parlaient pas ukrainien, ils parlaient russe. Je posais toujours des questions à mes parents, ce que ça veut dire tel ou tel mot. Ils disaient, ben, on ne sait pas. Et là, je me rendais compte qu'effectivement, ce n'était pas en langue russe, mais c'était un mot ukrainien. Mais il faut savoir que...
Donc vous avez longtemps été dans la confusion, finalement. Vous parliez des langues sans savoir à quel moment vous parliez quelle langue presque.
Et dans la confusion totale concernant l'ukrainien et le russe, d'autant plus quand on est enfant, effectivement, on parle de cette communication qui est très spontanée, on apprend très rapidement. Et puis, quand on est déjà adulte, on n'arrive pas à se souvenir des mécanismes de l'apprentissage. En revanche, on a des traumatismes de l'enfance, c'est-à-dire des moments qui nous ont marqués à vie, où on n'arrivait pas, par exemple, à expliquer qu'on avait envie d'aller aux toilettes quand on avait 5 ans, ou bien qu'à la cantine, on n'aimait pas tel ou tel plat. Ça nous marque à vie. Et c'est vrai que ça nous forge, mais en même temps, c'est quelque chose qui marque notre esprit. Mais une fois on apprend une langue, après, ça devient de plus en plus facile, parce qu'on a des mots qu'on a dans notre mémoire, on arrive à accumuler des mots qui ont des mêmes racines, et puis on se dit, bah tiens, ouais. ça vient du latin ou du grec, etc.
Du cerveau. Elena Gabrielian, vous êtes journaliste arménienne à la rédaction russophone de RFI, vous nous avez raconté votre parcours linguistique impressionnant, et en même temps très naturel. Est-ce que réellement, en dehors de la culture, en dehors de l'histoire de vos pays et du bloc soviétique à l'époque, est-ce qu'il y avait, et est-ce qu'il y a toujours une façon d'appréhender une langue étrangère autre que la langue maternelle pour que vous soyez tous si polyglottes, Ranka ?
Alors, je me rappelle de mon enfance, nous n'étions pas dans le bloc soviétique. Justement, la Yougoslavie était plus ouverte vers d'autres pays, l'Afrique, l'Europe, etc. Et je sais que nous apprenions les langues étrangères à l'école, mais dans les médias, tous les films, par exemple, étaient sous-titrés. Il n'y a jamais eu de films synchronisés. Donc, finalement, les gens... à force d'écouter, de lire, faisait une correspondance.
C'est le cas en Europe du Nord aujourd'hui, où les films anglophones ne sont pas sous-titrés.
Absolument, et donc finalement, les jeunes, les enfants, tout le monde, les gens qui étaient quand même cultivés et qui éduqués, apprenaient les langues étrangères. Donc c'était pas quelque chose d'étranger et de difficile, ça nous semblait pas difficile. Et puis j'étais aussi dans un pays où il y avait 3 langues officielles, donc du coup, l'idée de multilinguisme, même si on n'était pas tous bilingues avec d'autres langues de l'ex-Yougoslavie, cette idée de des langues existait dans l'esprit de tout le monde.
Ça veut dire que le cerveau était déjà finalement plastique dès les toutes premières années de la vie ?
Il l'est de toute façon, il est plastique tout au long de la vie, sauf que certains aspects sont plus ouverts, plus plastiques au début de l'année, au début de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre les langues étrangères. Voilà, Elena, quel exemple extraordinaire, mais pas le seul, parce qu'il y a tellement de gens aussi qui apprennent à force d'être obligés d'apprendre la seconde langue ou la troisième ou la quatrième. Ce qui est quand même aussi un avantage de parler plusieurs langues, c'est que le troisième, quatrième vient plus facilement. Et ce qu'il disait Elena, pas seulement parce qu'on a aussi plein de connaissances, plein de mots dans des langues, mais aussi qu'on développe ce que les enfants bilingues développent aussi, une métaconnaissance, métalinguistique, une réflexion inconscient sur le langage, parce que il combine, il regarde qu'est-ce qui est saillant dans cette langue, comment trouver dans le contexte le mot qui signifie
quelque
chose.
De manière complètement intuitive.
Complètement intuitive. Et les enfants bilingues le font ça dès les premières années de vie.
Et en même temps, pour vous, Elena, lorsque vous étiez à l'école, au lycée, en Ukraine, vous donc de famille arménienne, l'arménien à la maison, le russe qui était de toute façon parlé par vos parents, puisque vous aviez d'abord grandi en Arménie et puis en Ukraine aussi. Le lycée était bilingue, c'est ça, russe, ukrainien.
Oui, tout à fait, on apprenait les deux langues.
Est-ce qu'il y avait une méthode pour apprendre les langues ?
Le russe et l'ukrainien, c'était assez naturel parce qu'on était dans le milieu bilingue déjà. Mais par exemple, quand on apprenait l'anglais, je me souviens qu'on apprenait tout par cœur. On apprenait des textes par cœur. Et puis on écoutait. Et l'accent, c'était quelque chose qu'on imitait. C'était une sorte d'imitation. Et je sais que par exemple, j'ai fait de la musique et je me suis rendu compte que... avoir l'oreille, ça facilite parce que on imite l'accent. Et puis il y a un autre phénomène très intéressant, c'est qu'on a tendance à mélanger quand on est bilingue et quand on est dans une communauté bilingue, mélanger les deux langues, mais aussi les deux mots, voire même dans un seul mot avoir les éléments de différentes langues. Pour donner un exemple, par exemple en langue avec mes amis franco-russes, j'utilise le mot lansnout. ce mot n'existe pas en langue russe, mais on retrouve la racine de mot lancer. C'est cette racine du mot français qu'on a pris, on a ajouté une finition russe et puis ça a donné ce mot-là. Donc avec, au sein de la communauté bilingue, on a tendance à donner la liberté à notre cerveau de sortir ces mots, les premiers qui viennent à l'esprit. Alors que par exemple, quand je vais en Arménie, je ne mélange pas le russe et l'arménien comme je fais à la maison avec mes parents, mais j'essaye de purifier, je fais un effort pour parler uniquement l'arménien.
De manière très consciente, là.
Oui, tout à fait. Et puis, comme je disais, en langue maternelle, on réfléchit. C'est-à-dire, quand je réfléchis ce que je vais faire dans la journée, je réfléchis en langue arménienne. Mais quand je parle français, je réfléchis en français.
C'est comme une seconde famille.
Ouais.
7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment se fait la tambouille avec le multilinguisme chez vous, dans votre foyer? Nous accueillons Florent qui nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous êtes à Libreville pour le travail, mais en fait vous vivez en Afrique du Sud. Et vous avez des enfants, vous êtes congolais, c'est ça?
C'est ça, oui.
Oui, alors expliquez-nous pour qu'on suive bien.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, nous avons quitté... Kinshasa, pour nous installer en Afrique du Sud. Et mes enfants, l'aîné avait 16 ans, mais là, il a 23 ans. Quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils sont entrés directement à l'école. Et ils ont réussi leur année sans avoir appris le français, l'anglais au préalable. Et maintenant, ce sont de véritables bilingues, parce qu'à la maison, nous parlons le français, et à l'école, ils parlent l'anglais, et ça n'a pas créé de problème pour apprendre l'anglais, c'est dans un temps record. Maintenant, quand ils parlent, ils ont tous l'intonation des anglophones.
Florence, c'est intéressant, vous ne mentionnez à aucun moment le lingala.
Non, non, c'est-à-dire le lingala, nous ne parlons pas avec nos enfants. Depuis qu'ils sont enfants, nous parlons français avec eux, même quand on était à Kinshasa, et nous ne parlons pas lingala avec eux. Ah. Mais bien sûr, ils connaissent le lingala, hein, parce qu'ils côtoient aussi les autres enfants. Mais à la maison, on ne parle pas lingala. Mm. Je parle lingala avec mon épouse. Mm. On parle aussi les autres langues, comme notre langue maternelle, le chiluba. Mais on ne parle pas avec les enfants, les autres langues.
Est-ce que parfois vous vous interrogez sur toutes ces langues qui se télescopent? Est-ce que parfois vous demandez comment y mettre de l'ordre? Ou il y a des questions qui viennent à vous?
Ce sont les adultes qui se posent. Pour les enfants, ils ont un cerveau qui est compartimenté. Hein. Donc, ils n'ont pas de troubles pour eux. Parce que quand ils viennent à la maison, ils savent que papa et maman, je leur parle en français. Mm. Quand ils parlent avec des amis, ils parlent en anglais. Mais en tout cas, la maison, tout est compartimenté et ils se sentent très bien.
Et pour les vacances au Congo, tout revient en lingala et ça ne pose pas de problème.
Oui, quand on va en vacances, ils parlent lingala avec leur grand-mère, ils parlent lingala, leur grand-mère parle même en langue maternelle, ils répondent. Le tout, c'est aussi les gestes, etc. Mais ils s'en sortent bien. Je n'ai jamais eu de problème pour ça. S'ils ne comprennent pas la langue maternelle, on peut traduire pour eux. Mais sinon, ils s'en sortent bien.
Mmh. Il n'y a pas de dramatisation quand il y a un problème linguistique, finalement. Vous avez l'air très, très serein par rapport à tout cela, Florent.
Oui. Je considère que ce qui est prioritaire, c'est qu'ils connaissent le français. Quand ils apprennent en anglais, ils doivent aussi connaître l'anglais. Mais pour les autres langues, il n'est jamais trop tard pour les apprendre.
Merci, Florent, de nous avoir appelés. Je voudrais lire le message de Maximilia, qui est à Yaoundé, et qui nous dit la majorité des Camerounais parlent au moins 4 langues, le français, l'anglais, 2 dialectes des parents. Ici, le bilinguisme, c'est quand on parle français et anglais. Pourquoi ne reconnaissons-nous pas nos dialectes? Mais nous, en tout cas, à chaque fois, on mentionne bien les langues locales que vous parlez, on les compte exactement au même titre. Mais je sais que ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur, Ranka.
Tout à fait, parce que justement, par rapport à la valorisation des langues, cette hiérarchie qui existe dans l'opinion intellectuelle et scolaire, qu'il y a des langues qui sont plus valorisées.
Sur le plan scientifique, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens, c'est vrai. Dans le domaine scientifique, c'est l'anglais qui est la langue majoritaire.
Non, mais je veux dire, sur l'acquisition d'une langue dans le cerveau...
Ça n'a aucun sens, parce que toutes les langues sont complexes et toutes les langues, elles ont leur place dans la tête de locuteur. Donc, ce n'est pas du tout une hiérarchie dans la tête. Ce qu'il dit le monsieur qui est assez compartimenté, moi, je ne dirais pas, parce que ça, on sait que les langues ne sont pas si séparées dans la tête et que, justement, si on parle avec l'accent une seconde langue, c'est parce que la première, elle est là et si on arrive à la l'inhiber, comme on fait en parlant avec vous en français, c'est qu'elle est toujours là, quelque part en arrière, elle se manifeste et c'est ça qui est le côté aussi extraordinaire et la richesse, c'est qu'on ne s'identifie pas seulement et on n'est pas seulement une chose, on est aussi de cultures, de langues qui sont là présentes.
Elena nous disait tout à l'heure, si j'ai bien compris, à entendre votre niveau de français absolument parfait, Elena, vous disiez finalement, les langues aussi, celles que l'on a apprises, qui ne sont pas venues à nous naturellement, il y a eu beaucoup de par cœur et beaucoup d'imitations pour l'anglais notamment, et le français aussi, j'imagine.
Oui, surtout ce qui est important, par exemple, le français que j'ai appris assez tard, à l'âge de 21 ans, il est très important de préconditionner en fait notre processus de l'apprentissage. Par exemple, je suis tombée amoureuse du français comme on tombe amoureuse d'une personne. Et puis, on peut vite se lasser comme d'une relation. Quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à apprendre, parce que c'est difficile, il y a beaucoup de contraintes. Ce qui est important, c'est psychologiquement déjà d'y être prête. En plus, il faut tout le temps se motiver d'entretenir cette flamme. Par exemple, d'appuyer par un objectif. Moi, j'avais l'objectif, par exemple, de venir faire mes études en France. Écouter de la musique qu'on aime, apprendre les paroles, et puis regarder les films, etc.
Raviver la flamme, c'est une belle expression.
Et surtout rêver, parce que moi, je me souviens que je rêvais de moi-même, de me promener dans les rues de Paris avec mes amis, de parler parfaitement français, et puis même faire des blagues. Alors pour moi, c'est assez, c'est assez important qu'on arrive à faire des blagues et faire rire ses amis en langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre langue maternelle. Et cette rêve est très importante de visualiser nous-mêmes qui parlent une autre langue, qui n'est pas notre langue maternelle. Et surtout, même si on ne comprend pas ce que je faisais avec le français, et je fais maintenant par exemple avec la langue turque que j'apprends, surtout, écouter beaucoup la radio, regarder la télé. Même si on ne comprend pas, il faut laisser l'oreille ouverte à des sons qui nous sont au début, qui semblent au début étranges. Et en 2008 encore, j'écoutais RFI, il y avait une émission actualité en français facile. Ça existe toujours, effectivement, et j'aurais jamais pu imaginer que je finirais à travailler ici, mais c'était voilà, très très symbolique pour moi.
Ouais, en tout cas, votre histoire est quand même assez incroyable.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Jackie Pialou, alors vous, dites-nous où en est l'éducation nationale et pourquoi vous avez créé il y a 2 ans avec une équipe la Semaine des langues pour valoriser la langue des enfants qui parlaient à la maison pour des enfants qui sont, la langue maternelle, qui sont issus de l'immigration.
Alors c'est un long travail, c'est vrai qu'on peut situer cette Semaine des langues à 2 ans en arrière et puis ça va continuer, on l'espère. Mais ça fait 10 ans que cette problématique est apparue dès que je suis arrivée en zone d'éducation prioritaire. Effectivement, donc moi, les enfants que je rencontrais, c'était des langues minorées. Hein, c'est parce qu'on parle de hiérarchie des langues, mais c'est vraiment ça. Là, on sent la notion de plaisir que tous les enfants n'ont pas. Donc, il y a plein de choses qui sont très importantes au niveau de l'affect. Donc, ce projet, il est né parce que moi, je rencontrais des enfants en difficulté avec, on va pas parler de bilinguisme, mais cet apprentissage de la langue de scolarisation. Donc, à la maison, si on parle des enfants de maternelle, ils arrivaient à 3 ans. Avec que donc, la langue maternelle.
C'est ça, par exemple, un arabe dialectal ou du bambara, voilà, ou oui, peu importe. Oui, oui, oui. Hein. Et beaucoup d'enseignants disent, oulala, attendez, avec les difficultés qu'il a,
on va arrêter,
laissons de côté le bilinguisme.
La langue maternelle, et voilà, on disait aux parents, bon, évitez de leur parler peut-être la langue maternelle.
Madame, parce essayez que de ils parler ont, français à votre enfant, c'est ça, une forme de culpabilisation aussi.
Oui, enfin, bon, culpabilisation peut-être pas, mais enfin, en tous les cas, on étouffait un peu cette langue, on voulait la mettre de côté, parce que, comme disait Ranka, c'était un coût cognitif plus important. Or, on sait maintenant que pas du tout, puisque les travaux de Marie-Rose Moreau, qui notaient bien que apprendre... pédopsychiatre, à Vicennes, à la Maison de Solène, qui a très vite dit, bien connaître sa langue maternelle, ça permet de rebondir au niveau de la syntaxe, de plein de choses, sur une seconde langue. Et moi, les enfants que je rencontrais, c'était justement des enfants déjà, on peut dire, en difficulté avec leur langue maternelle. Une langue qui restait pauvre, j'aime bien l'expression de la langue du dimanche, c'est-à-dire la langue du quotidien. On parle pas à ses enfants voilà, pour lui dire, va te brosser les dents, etc. Comme on parle à l'école, puisque le vocabulaire, on cherche à l'enrichir, etc. Donc bien sûr qu'il a fallu très rapidement dire, gardez, parlez votre langue maternelle, surtout à la maison d'ailleurs, parce que...
Et ne l'appauvrissez pas, cherchez au contraire à l'enrichir,
parce que les parents, des fois, étaient en difficulté aussi pour leur parler un français, on va dire, correct. Donc, bien parler sa langue maternelle à la maison, et l'école s'occupe un peu du reste aussi, mais surtout pas voilà, parce qu'après on parle de clivage, il y a l'école, il y a le monde de la maison, la culture, et puis les langues, et on sépare tout ça.
Le bilinguisme, le multilinguisme ne peut pas être cause d'échecs scolaires, Ranka?
Non. Je pense qu'il n'y a pas d'études qui montrent que le bilinguisme, le multilinguisme est la cause.
Ça peut être... Alors, il y a des enfants bilingues qui sont en échec scolaire, mais c'est pas à cause de ça.
C'est pas à cause de ça. Il y a tellement de...
Il y a plusieurs facteurs
et aussi le facteur, bon, quand on parle un peu des enfants de certains endroits où il y a vraiment l'immigration qui est déjà au niveau socio-économique et culturel pas très élevé, on sait qu'ils sont en contact avec les enfants autochtones et français qui sont de même milieu. Donc finalement, ça ne stimule pas, ça ne pousse pas.
Bon, pour le dire clairement, la pauvreté est davantage un facteur d'échec scolaire que le bilinguisme.
Pauvreté socio et culturelle aussi. Ça, donc c'est ça. Et puis en plus, le fait d'interdire et de, comme ça, aux gens de parler leur langue, de les couper de leur tradition, alors qu'ils ne maîtrisent pas le français, ça fait des conflits à tous les niveaux. Et ça n'aide pas les enfants.
Une question d'une auditrice. Stéphanie à Abidjan, elle nous dit qu'elle est belge, elle habite à Abidjan, son fils de 3 ans va commencer au lycée français dans un cursus bilingue français-anglais. Je suis francophone, nous dit Stéphanie, mais je souhaite le familiariser au néerlandais dans une petite structure belge qui donne, le pays est bilingue, hein, son pays, la Belgique, qui donne 2 heures de cours par semaine. Et comme on a vécu en Amérique latine, je parle espagnol avec mon mari, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Si, donc, mon enfant, il aurait le français, l'anglais au lycée français, l'espagnol et le néerlandais qui serait visiblement une partie de la langue maternelle de la maman. Inquiétude de la maman.
Alors, d'abord, on ne sait pas dans quelle langue elle lui parle. Est-ce qu'elle lui parle en français ou en néerlandais, qui est sûrement une volonté de sa part de lui apprendre
la langue. Elle dit qu'elle est francophone, alors effectivement.
Alors, francophone, ouais, donc s'il lui parle néerlandais et qu'elle lui mette tout petit aussi dans une structure, ça a du sens. C'est ce qu'ils font aussi penser. Est-ce que quelquefois les parents ici, quand ils ont des ambitions linguistiques très fortes, ils mettent les enfants tout jeunes dans les structures pour apprendre l'anglais, alors que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens par rapport à la culture et le parcours familial. Donc, si elle, c'est vrai qu'il y a l'espagnol, l'anglais, le français, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est peut-être pas nécessaire aussi que tout se passe en même temps. Et surtout, c'est possible si ça a du sens. Si l'enfant sent que vraiment toutes ces langues sont parlées, comme il disait l'auditeur français qui vit en Tchéquie.
On accueille une dernière auditrice, Rachel, qui nous appelle de Chennai ou Madras, dans le sud de l'Inde. Bonjour Rachel, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors vous, vous parlez 5 langues?
Oui, je parle 5 langues.
Oui.
Et c'est un sujet super intéressant car je viens d'un pays multilangue.
Mm-hmm.
Et d'après moi, une nouvelle langue nous apporte non seulement la connaissance et l'histoire d'une région, sa culture, sa tradition, mais aussi l'ouverture de nouvelles opportunités d'études et de travail. Mm. Et il existe les études qui prouvent que la prévention de plusieurs maladies est possible.
Oui.
Surtout la maladie d'Alzheimer grâce au bilinguisme.
Tout à fait, Rachel. Vous soulignez tout à fait une question intéressante. On arrive vraiment à la fin de l'émission, mais je voulais le dire. Votre fille ne parle que 3 langues à 6 ans. Tamoul, Malayalam, une langue du sud de l'Inde, et puis l'anglais. Bravo à vous, Rachel. Effectivement, on dit aujourd'hui que le multilinguisme préviendrait l'apparition de certaines maladies.
Oui, il y a que 2-3 études, à ma connaissance, qui ont montré qu'effectivement, les personnes bilingues retardent à l'âge 4e âge l'apparition de maladies neurodégénératives. Donc, ça peut être un facteur qui repousserait un peu l'apparition des maladies par rapport à la population.
En tout cas, permet de rester en forme intellectuellement tard.
De toute façon, et ouvert, et comme elle disait la dame, les voyages, les connaissances, et puis d'être aussi rattaché à
ces... Jackie Pialou, un mot de conclusion.
Oui, un petit mot pour dire que quand même, ça, ce qu'on voulait dire, c'est que les choses bougent énormément. Il y a eu les nouveaux programmes de 2015, il y a eu plein de textes, des circulaires, voilà. Donc, c'est plus des petits projet isolé. On a beaucoup de partenariats maintenant avec l'éducation nationale, les associations, les choses bougent, c'est écrit dans des circulaires, dans des textes officiels. Voilà, donc on est très...
À la faveur des études scientifiques qui disent qu'il ne faut pas s'inquiéter d'un empilement des langues pour les enfants, ils vont s'en sortir. Merci à vous toutes, Anka Bijel-Jacques Babich. Vous publiez L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école. C'est un livre tout à fait passionnant, très concret, très utile pour les parents qui se posent des questions. Jackie Pialou, merci à vous, psychologue scolaire. En région parisienne. Et merci à vous, Elena Gabrielian, journaliste arménienne à la rédaction russophone de RFI. Dans quelques secondes, on parle du bac au Sénégal. Objectif bac, c'est le défi de Social Change Factory.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
On est en ligne avec un ami bilingue, trilingue, je ne sais plus. Bonjour Sobel Ngom.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le fondateur de l'organisation citoyenne de l'ONG Social Change Factory. Et vous êtes, alors depuis l'année dernière, vous avez, on peut dire, déclaré la guerre à l'échec au baccalauréat au Sénégal en aidant les candidats et puis aussi en mettant la pression aux politiques.
Oui, on peut dire ça. Alors, pas depuis l'année dernière. C'est un projet qu'on a repris l'année dernière, mais qu'on a initié en 2007.
Qui était tombé en désuétude, faute de financement, il faut bien le dire.
Faute de financement et faute de temps, parce que nous-mêmes, nous venions d'avoir le bac, nous avions nos études supérieures, et quand j'ai créé Social Change Factory, on a décidé de le reprendre.
Alors, le taux de réussite au baccalauréat au Sénégal, c'est pas du tout le pire taux de réussite sur le continent africain, en Afrique francophone. Il est en progression. Le nombre de mentions, en revanche, a chuté. Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous irrite?
Alors, moi, ce qui m'irrite directement, c'est 6 et 7 élèves sur 10, échouent au bac, ils se retrouvent sans perspective d'avenir et de solution. C'est un investissement énorme pour l'État du Sénégal qui met 40% de son budget dans l'éducation. C'est vrai qu'il faut noter une évolution qui est plutôt pas mal, mais on a encore beaucoup de boulot. Et il faut absolument qu'on trouve des solutions alternatives pour ces jeunes qui font 15 ans à l'école et qui sont bloqués au niveau du bac et qui se retrouvent sans perspective ou alternative viable.
Vos actions se concentrent dans les régions sinistrées du bac ?
Oui, alors on identifie donc des lycées qui ont un taux avoisinant les 70% d'échecs, voire plus. Nous en avons ciblé 5 cette année, donc Sédhiou et Ziguinchor au sud du Sénégal, Fakik au centre, Kédougou à l'est et Linguère au nord. Nous allons accompagner 1500 élèves avec 60 volontaires.
Ça veut dire que là, dans ces villes-là, on peut descendre bien en dessous de 36% de réussite au bac ?
C'est une de ces 6 à 24%.
24%, donc un quart seulement des candidats qui réussissent le baccalauréat, les trois quarts qui sont jetés à la fin de la scolarité. C'est le mot qu'on peut employer.
Bah, écoutez, c'est le mot que j'emploie en tout cas. En étant bien conscient qu'aujourd'hui, je pense que on n'est pas dans une situation où au niveau gouvernemental, les gens ne sont pas conscients. Je pense qu'il y a une réelle conscience qui est portée sur cette question-là. Je pense que les efforts sont en train d'essayer d'être faits. Beaucoup de gens se battent au sein du système, mais ça ne suffit pas, ça ne marche pas encore assez bien. Il y a notamment, vous parliez de la langue précédemment, il y a une réforme sur la question de l'éducation dans les langues nationales qui est en phase test pilote et qui, pour moi, une fois qu'elle sera appliquée, pourra faire partie de ces éléments qui vont renforcer en tout cas la qualité et la pertinence de l'éducation au Sénégal. Mais on se retrouve encore avec 7 jeunes sur 10 qui n'ont pas le bac. Et ça, c'est un problème pour
nous. Alors, quels sont les principes, en quelques mots, du tutorat par les grands frères, les grandes sœurs, des jeunes qui ont parfois eu le bac seulement l'année dernière et qui veulent aider les autres?
Exactement. Alors, l'idée, c'est de prendre des jeunes qui sont frais, justement, qui se souviennent du programme, qui ont été bons, particulièrement bons dans différentes matières du bac. Donc on a un processus de recrutement, on en a eu à peu près 150 candidatures, on en a retenu 50 parce qu'ils sont bons dans un domaine, ils sont formés sur des notions pédagogiques importantes. On développe également avec des professeurs bénévoles des tutoriels sur les conseils, méthodes, comment faire une dissertation, comment analyser un problème, comment ceci, cela, qui leur permet d'améliorer leur capacité à réussir le bac. Sur place, donc les cours, on peut dire, ou les facilitations sont données par ces jeunes entre 9h et 23h, donc par des petits modules, entre 5 et 8 étudiants par facilitateur.
Et les lycéens reviennent à l'école, etc. Les lycéens reviennent au lycée entre 21h et 23h pour réviser le bac avec eux?
Alors, la journée, on la passe au lycée, et donc certains lycées nous autorisent à rester dans la soirée. Oui. Et puis sinon, comme nous sommes tous sur place, résidents dans une maison qui est la maison Objectif Bac quelque part, on leur ouvre nos portes jusqu'à 23h, et avec le principe qu'on ne doit refuser aucun élève.
Ouais. Alors, ça va se passer du 9 au 18 juin. L'année dernière, quel a été l'effet d'une telle mobilisation, d'abord dans la tête des élèves aussi, sur le psychisme, sur la confiance, et puis sur les résultats aussi au baccalauréat?
Absolument. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part à un examen avec une idée que l'année dernière, ce qui était à ma place, plus de la majorité ne l'ont pas eu, on n'est pas super confortable et confiant par rapport à notre sort. Donc déjà, on part un peu défaitiste. Et l'idée pour nous, c'est de donner un accompagnement pédagogique, scolaire évidemment, mais surtout un accompagnement moral pour les pousser, les booster, leur donner confiance en eux et leur dire « ça va aller ». On n'influe pas nécessairement sur le taux de résultat national, mais on a des success stories, notamment Mambéram Diouf, qui faisait partie de notre programme, qui a passé le bac en candidat libre en première pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, et qui a juste révisé à travers le programme Objectif Bac. On en a accompagné plusieurs, certains travaillent aujourd'hui avec nous. Voilà. Et puis même dans la tête de ceux qui viennent aider, ces étudiants qui sont dans des business schools, qui ont pour aspiration de changer les choses, on les met sur le terrain, ils voient les réalités. Ouais.
Ce que vous voulez, c'est créer une mobilisation générale autour de l'échec au baccalauréat au Sénégal, et que tout le monde déclare la guerre à cet échec au baccalauréat, si j'ai bien compris, hein, Sobel Ngom.
Oui, c'est vraiment un constat.
Merci beaucoup Sobel, merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Mathieu Salabert, Raphaël Lazizi. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À lundi les voisins.